Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série sur l'apostasie et aujourd'hui, on va s'intéresser à la femme qui enseigne. Comme je vous l'avais précédemment dit, on voit de plus en plus aujourd'hui de femmes prédicateurs, pasteurs, etc. etc. Et on va voir que malheureusement, c'est une chose qui n'est pas biblique. Ou en tout cas, on va expliquer exactement le rôle de la femme dans la Bible et particulièrement évidemment dans la Nouvelle Alliance. Alors, on a deux textes qui sont sans équivoque, qui peuvent parfois être, on peut les trouver un peu raides, un peu difficiles, on se dit, waouh, ça rigole pas. Donc je vous les mets en face, c'est 1 Corinthiens 14 et 1 Timothée 2, on va pas les lire tout de suite, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Alors cette vidéo, elle va être un peu longue, parce que pour bien expliquer pourquoi la femme ne doit pas enseigner dans l'Église, eh bien, on est obligé de parler des ministères, on est obligé d'expliquer un petit peu ces deux textes qui sont devant vos yeux, et puis ensuite on va voir exactement, on va essayer d'aller creuser la raison pour laquelle Paul fait cette adresse aux Églises. Et en préambule, donc c'est un petit peu long, je suis désolé, ça risque de durer je sais pas combien de temps, mais ça risque d'être un peu long, donc voyez la vidéo en deux fois s'il le faut. Moi j'essaie de faire des vidéos courtes, mais surtout j'essaie de faire des vidéos qui se suffisent à elles-mêmes, pas vous renvoyer à d'autres vidéos ou d'autres explications. Donc là il faut que je parle de tout en peu de temps, donc ça va être un peu compliqué. Donc, en préambule, je voudrais dire avant tout, nous ne sommes plus sous la loi de l'ancienne alliance, mais sous la grâce de l'évangile de Christ. Et donc ça, c'est important à comprendre, parce que aujourd'hui, on a souvent un réflexe dans les milieux chrétiens par rapport aux enseignements de Jésus et aux commandements qu'on trouve dans le Nouveau Testament, que ça soit Jésus qui les donne ou que ça soit des apôtres. On va dire tout de suite, on est plus sous la loi, on est sous la grâce, etc. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, et c'est important de comprendre que les prescriptions sont pas là pour être vues comme des lois de l'Ancien Testament. Le deuxième point, c'est que cette alliance a pour signe l'amour et pour caractéristique la liberté, sans laquelle aucun amour ne peut s'exprimer. Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est en vertu de l'amour qu'il a pour nous que nous l'aimons, et pas autrement, et c'est vraiment ce qui caractérise cette alliance nouvelle, l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et en fait, cet amour, il est aussi caractérisé par la liberté. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. Demeurez dans ma parole et ma parole vous affranchira, vous rendra libre, etc. Pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on exprime cet amour reçu de lui envers les autres, et on ne peut exprimer cet amour que si on est libre de le faire et non pas contraint. Si on était contraint, ça serait pas vraiment de l'amour, on est bien d'accord. Donc, je veux rajouter, cependant, Jésus ordonne, il donne des ordres. Voilà, donc c'est un peu contradictoire avec la notion de liberté. Non, on va voir comment. Jésus ordonne à ses apôtres de faire des disciples et de leur enseigner à observer ce qu'il a prescrit. Alors, ça, c'est en vertu de l'amour encore. Pourquoi ? Parce que Jésus et Dieu le Père veut que nous restions dans son amour. Et voilà pourquoi ces ordres, ce sont des prescriptions, ce ne sont pas des lois contraignantes, mais ce sont des prescriptions que nous devons observer dans la liberté qu'il nous donne. Ces prescriptions, alors ça peut être ces ordres, ces commandements, ne sont pas là donc pour être des pierres d'achoppement pour les enfants de Dieu, mais elles sont comme des balises sur le sentier étroit et resserré du Sauveur, afin que nous restions en lui. Et enfin, dernier point. S'affranchir, donc c'est ma conclusion à cette petite introduction, s'affranchir d'observer ses commandements, c'est prendre le risque pour soi et pour ceux qui nous écoutent de s'écarter de ce chemin. Et ce chemin, c'est Christ, donc de Christ lui-même. Et cela a évidemment toujours des conséquences. Et ces conséquences, elles peuvent être graves. Parfois on peut se dire, oh mais voilà, je fais telle chose, c'est écrit le contraire dans la Bible, mais bon, voilà, je suis toujours là, j'ai toujours foi en Dieu. attention, il faut pas jouer avec ça. Il faut vraiment pas jouer avec ça. On est amené à toujours grandir dans cette communion à Christ, à marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est marcher en lui, avec lui, selon également les enseignements que nous recevons de lui. Alors, on va commencer. Et on va commencer avec. On va parler des femmes exerçant des fonctions particulières dans la Bible. Alors, j'ai pas pris toutes les femmes. Je ne vais pas vous parler de Sarah, de Rebecca, de Rachel et Léa, etc. Bon, elles étaient les femmes d'eux déjà. Je ne vais pas vous parler d'Anne, la mère de Samuel, etc. Je ne vais pas non plus vous parler d'Esther, qui est particulière encore. Mais c'est des femmes qui ont été. Elles sont citées, on raconte des choses sur elles dans la Bible, mais elles sont mentionnées parce qu'elles sont là à un moment. Elles font partie d'une situation et elles sont mentionnées pour ça. Là, je vais parler de femmes qui ont des fonctions particulières. Allez, je commence tout de suite. Donc, Marie, sœur de Moïse et Aaron. Elle était prophétesse. Voilà. Donc, c'est ce qui est indiqué. Je vous marque le verset où c'est montré. Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et des danses. Et en dansant, pardon. Déborah, juge. Alors. Elle n'est pas que juge. Là, j'ai marqué juge vraiment pour être honnête, parce qu'en fait, elle est elle aussi prophétesse. Voilà, juge 4 et verset 4. 4, et on va lire le verset 8 et 9 après. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc, elle avait deux fonctions. Mais je vais expliquer un petit peu après. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Alors, si je vous montre ces femmes, c'est pour vous montrer, ces femmes, en fait, généralement, elles sont citées par les femmes, ou en tout cas les personnes qui vous raconte que les femmes peuvent avoir des ministères, qu'elles ont un ministère comme les hommes dans la parole, etc. Et elle cite toujours Déborah, alors Marie et d'autres. Elle les cite comme des exemples en disant, ben voyez, Déborah, elle était juge en Israël, donc une place d'autorité, ben Dieu la donne également aux femmes. Oui, mais ces versets qu'on vient de lire donc, nous montrent d'abord qu'elle était prophétesse. Et puis, il nous montre que Déborah elle-même, elle pensait, elle trouvait que c'était une anomalie qu'elle soit juge et qu'elle se mette en marche avec Barak, qui était lui le juge homme du moment. Et elle lui dit, bah, tu vas, tu, si je vais avec toi, en fait, ils allaient à la guerre tous les deux contre Sisera, qui opprimait le peuple d'Israël. Elle lui dit, bah, si je viens avec toi, t'auras pas de gloire. Parce que l'Éternel va me livrer Sisera entre les mains d'une femme. Donc elle montre par là que ça n'est pas normal qu'elle ait cette position. En fait, elle a cette position de juge, mais simplement parce que Barak ne tenait pas sa position de juge. Il n'avait pas, il manquait de foi, et elle a la foi. Et là, je rejoins par contre tous ceux qui disent, ben voilà, quand il n'y a pas d'homme, ben Dieu y prend des femmes, etc. C'est vrai que si les hommes ne font pas ce à quoi Dieu les appelle, eh bien Dieu va trouver quelqu'un pour faire le travail, pour faire sa volonté, et il peut tout à fait choisir une femme. Mais ça reste, là, dans ce cas, dans les cas qui nous occupent, ça reste, et là c'est vraiment la seule exception, hein, Déborah, ça reste vraiment, on va dire, exceptionnel, anecdotique. Voilà. Troisième personne, Hulda, la prophétesse. Je cite le verset, on va accélérer. Elle est prophétesse encore. Et dernière personne, je cite, bon, il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, j'étais un peu vite, Anne, prophétesse. Luc 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Mais attention, attention, c'est ça que je veux vous montrer, c'est pour ça que je vous ai mis ces femmes. Toutes ces femmes, elles font partie de l'ancienne alliance. Même Anne, que je vous mets, qui est dans l'évangile de Luc, elle c'est Jésus vient de naître. Et Jésus n'est pas encore mort et ressuscité, donc la nouvelle alliance n'est pas encore là. Toutes ces femmes font partie de l'ancienne alliance. Et c'est bien pour ça que je voulais vous faire remarquer ça, c'est qu'on cite souvent, ah ben vous voyez, une telle, elle était prophétesse, une telle, elle était prophétesse. Attention, dans l'ancienne alliance, Dieu ne parlait aux hommes que par des prophètes et de temps en temps des prophétesses. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint n'était pas répandu sur toute chair. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit Saint est répandu sur toute chair. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu choisissait des hommes, des femmes particuliers, particulières, à qui il révélait certaines choses pour les communiquer au peuple. Et ce que je vais vous montrer, c'est que ces ministères de prophètes et prophétesses, ils ne sont pas en rapport avec les ministères qui sont donnés dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas d'apôtre, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait pas de tout ça. Et le ministère de prophète et prophétesse, eh bien c'était simplement, on appelait prophète et prophétesse les hommes, les femmes, qui avaient cette communication, cette relation directe avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, et on allait les consulter. Dans la Nouvelle Alliance, on ne va pas consulter un prophète ou une prophétesse. On parle soi-même directement à Dieu. Donc c'est vraiment pour vous montrer que les ministères de l'Ancienne Alliance sont différents et ne sont pas à mettre, en aucun cas à mettre en relation avec les ministères de la Nouvelle Alliance. Alors maintenant je m'attaque à les arguments que défendent les femmes qui veulent prêcher, etc. On nous parle toujours de certaines femmes du Nouveau Testament. Donc on va voir Priscille ou Prisca. Et on va lire le texte qui la concerne, enfin l'un des textes, il y en a quelques-uns, mais... « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » Alors, ce texte, il est là, souvent, nous dit, ben voilà, Aquilas et Priscille, ah ben ils ont exposé la voix de Dieu à Apollos, ça veut dire que Priscille, elle a enseigné, donc Priscille, elle a enseigné. Attention, il s'agit d'enseigner une personne, il s'agit de, c'est même pas l'enseigner, c'est lui exposer la voix de Dieu, pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait que le baptême de Jean, donc il y avait quand même pas mal de boulot, et... Quand je dis qu'une femme, que la parole de Dieu, pardon, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'une femme ne doit pas enseigner, ça veut pas dire qu'elle doit impérativement se taire et ne jamais annoncer l'évangile à qui que ce soit, ou non, non, il faut être sérieux. Bien entendu qu'une femme, elle peut parler, si elle croise quelqu'un dans la rue qui est complètement perdu, qui est sur le point de se suicider, elle va pas lui dire « bon ben débrouille-toi, salut, je suis une femme, je suis désolé ». Non, bien sûr. Et puis là, il s'agit d'une femme et elle est avec son mari et ils enseignent tous les deux, enfin, ils exposent tous les deux la voix de Dieu. Voilà, donc ce verset-là, c'est largement insuffisant pour dire qu'une femme peut enseigner, je suis désolé. Phébé, Romains 16, versets 1 et 2, « Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sandré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. » C'est Paul qui parle, et on voit que Phébé, elle est diaconesse. Il la nomme comme ça. Et pourquoi il la nomme comme ça ? Parce qu'elle a donné assistance à plusieurs et donc à lui. Donc là encore, il n'est pas question d'enseignement dans ce cas-là. Alors, on va voir la dernière. Junias, on nous dit souvent... Alors là, moi, je suis... les bras m'en tombent quand j'entends des choses comme ça. Romains 16, verset 7. « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Donc, comme il y a Andronicus et Junias et qu'il y a apôtres, on nous dit, dans le même verset, pardon, eh bien on nous dit, Andronicus et Junias sont des apôtres. Alors, premièrement, Junias, il y a la moitié des manuscrits qui nous parlent de Junia et l'autre moitié de Junias, donc avec ou sans S. Donc déjà, ça pourrait signifier que soit c'est un homme, soit c'est une femme, dans certains cas. Donc on n'est pas bien sûr. Mais, personnellement, je pense que Junias est une femme. Andronicus est certainement son mari, puisqu'il parle de mes parents, donc il parle d'un homme et d'une femme. Hein, on va pas chipoter. Mais en tout cas, moi je ne comprends pas qu'on puisse tordre, parce que ça c'est tordre les Écritures, hein. C'est ça tordre les Écritures, dire, Andronicus et Junias, grande considération parmi les apôtres, donc ils sont apôtres, Non, ça, bah, écoutez, c'est simple. Je vais vous redire cette phrase en disant saluer Pierre et Paul, qui jouissent d'une grande considération parmi les bouddhistes. Voilà. Imaginez un groupe de bouddhistes, eh ben, ils considèrent Pierre et Paul, c'est des hommes excellents, des hommes de Dieu, ben voilà. Est-ce que ça veut dire que Pierre et Paul sont bouddhistes? Évidemment que non. Voilà. Donc voilà comment on tord les écritures. Et ça, ben, rejetez-le. Rejetez ces gens qui vous disent ça. Voilà, allez, on continue et on va attaquer les ministères. Donc Dieu, il donne cinq ministères à l'Église. C'est dit en Éphésiens 4, 11. Je ne le lis pas pour aller un petit peu plus vite, pour avancer. Et on va les voir de toute façon un par un. Le ministère d'apôtre, le premier. Donc on a les 12 apôtres de l'agneau, hein, choisis par Jésus lui-même, mais on va avoir aussi par la suite d'autres apôtres, Galates 2, 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Là, c'est Paul qui parle pour montrer donc, que lui aussi il était apôtre. Et par la suite, il y aura Silas, Barnabas, etc., etc. On a le ministère de prophète. Et je vais vous montrer en fait que tous ces ministères, ils sont cités dans la parole. Acte 13.1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Voilà un autre verset, Acte 21.10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Vous voyez là encore un ministère et on cite des gens. Le ministère d'évangéliste. Alors, je reviens juste au passage. On voit que Saul, dans Acte 13, 21, ici, là, on voit que Saul, il était prophète ou docteur, mais qu'ensuite, il est passé apôtre. On va voir ensuite ici, en évangéliste, Acte 21, 8, est entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Philippe était évangéliste, mais il était l'un des sept. L'un des sept quoi? Je ne l'ai pas mis, mais c'était un des sept diacres, sept premiers diacres qui avaient été nommés. Et lui aussi, donc, il est passé de diacre à évangéliste. Il a eu une promotion. Non, je plaisante, mais c'est pour dire que les ministères sont donnés, mais les ministères sont des fonctions. Ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions que des hommes vont avoir à un moment ou à un autre. On peut très bien avoir une fonction à un instant T et en avoir une autre un peu plus tard. Il n'y a aucun problème avec ça. Docteur, Tite, chapitre 3, verset 13, ait soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Voilà encore un exemple. Et enfin, le dernier, pasteur. Eh bien là, j'ai pas de verset. Et là, c'est quand même remarquable. Pourquoi j'ai pas de verset qui nous parle d'un pasteur dans le Nouveau Testament? Parce que je crois qu'il n'y a que trois versets qui parlent du pasteur. Et à chaque fois, ces versets, eh bien, ils sont en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, moi, je trouve ça remarquable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pasteur, parce que c'est dit là, hein, dans Éphésiens 4, 11, les autres comme pasteur et docteur. Mais je trouve ça quand même remarquable que aujourd'hui, on va dire surtout dans les milieux, alors les milieux chrétiens, mais surtout chrétiens évangéliques, on ne parle que des pasteurs. Il n'y a que des pasteurs, rarement d'un docteur, rarement d'un évangéliste, jamais d'un prophète, et quasiment jamais, surtout jamais d'un apôtre. Mais on va dire qu'il y a des missionnaires qui jouent ce rôle. Bon, eh bien voilà, on a un petit peu tout inversé. Puisqu'aujourd'hui, on a des pasteurs partout et pas de prophètes, pas d'apôtres, très peu d'évangélistes, très peu de docteurs. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, ce qu'on peut dire. Alors, attention. Alors, voilà, une petite remarque. Attention, prophétiser n'est pas avoir un ministère de prophète. Évangéliser n'est pas avoir un ministère d'évangéliste. Et je vous donne un exemple. Acte 21,9, c'est Philippe, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. 1 Corinthiens 11 nous dit aussi, en verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Prier ou prophétiser, il ne s'agit pas là d'un ministère, il s'agit d'une action ponctuelle. On peut ponctuellement prophétiser. D'ailleurs, tous ceux, enfin, il y a plusieurs endroits des Actes des Apôtres où il est dit que bah, des nouveaux convertis recevaient le baptême du Saint-Esprit et ils. Parler en langue et prophétiser. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient prophètes. Il faut vraiment différencier la chose. Donc, ma conclusion, pour ce passage-là, la Bible ne mentionne jamais une femme pour l'une de ses fonctions. Vous pouvez chercher, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une femme apôtre, il n'y a pas une femme prophète, il n'y a pas une femme évangéliste, il n'y a pas une femme docteur, il n'y a pas une femme pasteur. Jamais. Donc c'est quand même quelque chose à remarquer. Mais on va pouvoir m'objecter que... Mais attention, il est dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Bon, eh bien, ceux qui font ça, lisez-leur le passage Galates 3, versets 24 à 29, et vous allez voir que cette phrase, elle est complètement sortie de son contexte, et on va voir le contexte. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est ça le contexte. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi le contexte. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de la foi. Voilà. Donc le contexte, quand on dit il n'y a plus ni homme ni femme, c'est par rapport à la foi, on est tous un en Jésus-Christ. Bien sûr que celui qui était esclave, il reste esclave. Il est resté esclave. Voilà. C'est, donc voilà encore une fois que les arguments qu'on nous amène pour nous dire que des femmes peuvent prêcher, des femmes peuvent enseigner, etc., sont faux, ni plus ni moins. Et en tout cas, ces ministères, ces cinq ministères-là, ils sont dédiés dans la parole aux hommes. Alors, on va continuer. Alors ça, je vous le dis d'avance pour commencer à se familiariser avec l'explication qui va venir. Dieu a donné un unique commandement à Adam. Il l'a donné à Adam seulement, pas à Ève. Jésus a passé une nuit en prière pour connaître les 12 apôtres que le Père désignerait pour recevoir son enseignement. Ça veut dire que la chose, il a passé la nuit en prière, c'est-à-dire que la chose était importante. Ce sont 12 hommes, aucune femme, pour cette charge. Donc ça, retenez-le, on va le voir par la suite, ça va être important. Et avant de continuer, on va voir les ministères d'anciens et de diacres. Donc on va commencer par l'ancien. 1 Timothée 3, 1 à 4. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Et puis 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moins anciens comme eux. Je vous marque ça pour vous montrer un petit peu plus tard, je reviens tout de suite. Les diacres. 1 Timothée 3, 8 à 12. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alors, donc, je reviens donc pour l'ancien. J'ai mis l'ancien, puis ici, j'ai mis l'évêque, pardon, et puis ici, j'ai mis l'ancien. C'est pour ça que j'ai pris deux versets différents, pour vous montrer, en fait, ancien, évêque, ça va être deux mots différents, mais ça veut quand même dire à peu près la même chose. Et ancien, c'est presbouteros, et évêque, c'est épiscopos, un préposé, surveillant, superviseur, homme chargé de contrôler ce qui doit être fait par les autres, que ce qui doit être fait par les autres est fait correctement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui veille à ce que soit bien mise en pratique la saine doctrine, pour ainsi dire. Voilà. Et Pierre, on le voit là, dans le verset, dans ce verset ici, Pierre, il déclare être un ancien. Les cinq ministères donnés à l'Église sont choisis par Dieu et se trouvent parmi le collège d'anciens des Églises. Voilà, ça c'était, c'est pour ça que je voulais vous faire remarquer ça. Les anciens, ils sont parmi, les ministères sont parmi les anciens qui dirigent une Église. Une Église est dirigée, une Église locale, un groupe de chrétiens, c'est dirigé par des anciens. Et ces anciens, ils ont un rôle de surveillant, veillant sur. Ainsi, il n'est jamais question d'anciennes, mais il est question de diaconesse. Dans toute la Bible, vous ne lirez jamais le mot « ancienne ». Et par contre, là, on l'a lu tout à l'heure, je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Sandré. Et pourquoi c'est, la Bible est logique. Les textes qu'on va détailler après, ils expliquent que la femme ne doit pas enseigner. Mais la Bible est logique. Ce que Dieu a dit d'un côté, il ne va pas se contredire de l'autre. Pourquoi ? Parce que la différence entre un ancien et un diacre, bien c'est celle-là. L'ancien, il doit être propre à l'enseignement. Si vous regardez ce texte-là, pardon, ce texte-là et ce texte-là, les caractéristiques entre l'ancien et le diacre sont quasiment les mêmes. La différence, ben, c'est qu'il est dit que l'ancien, il doit être propre à enseigner. Et d'ailleurs, dans les diacres, comme il n'y a pas ce détail-là d'être propre à enseigner, bien, il nous parle des femmes. Les femmes, de même, doivent être non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, elles peuvent être diaconesses. Mais elles ne prendront pas part à l'enseignement. Voilà, ben j'espère que ça déjà, ça vous éclaire. Mais on va maintenant détailler ces deux textes qu'on a vus tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il en est réellement. Donc je lis 1 Corinthiens 14. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans Donc là, en fait, c'était juste, je citais cette fin de phrase parce que le contexte dans lequel Paul dit ça, c'est l'ordre. C'est important que ça soit dit. Comme dans toutes les églises des saints, donc c'était pas que pour Corinthe, c'est toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Voilà le premier texte. On va lire en parallèle, je les ai mis en parallèle parce que vous allez voir qu'il y a une similitude. 1 Timothée 2, versets 9 à 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, j'évacue tout de suite le « elle sera néanmoins sauvée en devenant mère ». Là, on pourrait penser une femme, si elle ne devient pas mère, elle ne peut pas être sauvée. Non. Il faut relier ça à ce qui est dit au-dessus quand Paul ramène au jardin d'Éden, hein, enfin au jardin, voilà, et à la chute. Persévérer avec foi, dans la foi, avec modestie, dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. C'est ça qui nous sauve, voilà. Le sauver en devenant mère, bon, voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais bon, je passe là-dessus, c'était juste un détail. Alors, vous voyez, il y a un parallèle. Le contexte nous indique quelle doit être la position de la femme dans le peuple de Dieu et sa tenue lors d'assemblée. Voilà ce qu'il nous dit. Et j'ai mis de la même couleur pour ces versets parce que ça nous montre, les femmes se taisent dans les assemblées, dans 1 Corinthiens 14, il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises. Et puis l'autre nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est la même pensée qui est là. Deuxièmement, le silence et la soumission demandées ne sont pas absolus, mais sont en rapport avec l'instruction et l'enseignement. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas absolus ? Parce que dans l'Épître aux Corinthiens, là on est dans 1 Corinthiens 14, mais dans trois chapitres avant, dans 1 Corinthiens 11, Paul dit que la femme, elle peut prier ou prophétiser. Si elle prophétise, ce n'est pas toute seule à la maison, c'est dans une assemblée. Donc, elle peut parler, il n'y a pas de problème. Là, c'est en rapport avec l'instruction. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et là, je ne permets pas, donc c'est l'instruction, et là, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. Donc c'est bien pour vous montrer que cette indication à rester dans le silence est en rapport avec l'instruction pour les deux fois. Et dernier point, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Là, il nous ramène, dans les deux cas, c'est une évocation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lors de la chute. Donc, je répète, cette défense d'enseigner pour la femme et ce silence qu'elle doit garder est en rapport avec l'instruction. Et dans les deux cas, il nous ramène au jardin d'Éden. Donc il va falloir qu'on aille au début de la Bible, dans la Genèse, pour comprendre ce qui se passe. Genèse chapitre 1 verset 5, « Dieu appela la lumière du jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Je vais vous expliquer pourquoi je vous fais lire ce verset. Et puis on va lire Genèse chapitre 2 verset 15 à 23, pour lire comment Dieu a créé la femme. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, ce texte, un petit peu long, hein, mais il nous montre tout ce processus qui a amené Dieu à former la femme et comment il l'a fait. Et le mot que je veux vous faire remarquer ici, c'est « appela ». C'est pour ça que j'avais mis ce verset. « Dieu appela ». Et ensuite, il a amené les animaux de la terre afin que l'homme les appelle, qu'il leur donne un nom. Et on voit que l'homme, le Seigneur a fait la même chose avec la femme. Il a créé la femme et ensuite il l'a amenée à l'homme afin que l'homme lui donne un nom. Et ce mot, c'est systématiquement le mot kara en hébreu. C'est le même mot partout. Nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est prendre autorité sur ce qu'on a nommé. Un autre exemple, par exemple, dans Daniel, au premier chapitre, Daniel et ses amis, on leur donne un autre nom que celui qu'ils avaient quand ils sont dans un pays étranger. C'est pour vraiment marquer l'autorité sur eux, on leur fait perdre leur ancienne identité pour leur en donner une nouvelle, parce qu'ils sont sous une nouvelle autorité. Eh bien là, c'est pareil. Dieu, il a appelé la lumière, jour, les ténèbres, etc. Il a pris autorité sur sa création, simplement. Mais il ne l'a pas fait pour les animaux, et il ne l'a pas fait pour la femme. Pour les animaux, il a voulu que ce soit l'homme qui ait l'autorité sur les animaux. Et ensuite, on voit également qu'il fait la même chose, c'est le même processus avec la femme. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, et pourquoi ? Dieu agit ensuite de la même manière avec la femme, il amène l'homme et l'homme lui donne un nom pour que l'homme ait l'autorité sur la femme. Et l'homme appelle la femme, donc l'homme il est Ish et la femme il l'appelle Isha. Et c'est une, comment dire, c'est un dérivé en fait, le mot Isha pour la femme, il dérive du mot Ish de l'homme. Donc si on devait traduire littéralement, il faudrait dire un homme et une homesse. Vous voyez, ça serait se rapprocher plus du texte hébreu. C'est, je crois, d'ailleurs traduit comme ça dans les versions Martin de la Bible. Pour bien montrer en fait que la créature qui est la femme, eh bien elle vient de l'homme, elle a été faite pour l'homme. Donc c'est-à-dire que la femme procède de l'homme, sans l'homme elle n'est pas. Alors, je modère hein, ce que je suis en train de vous dire, parce que voilà, 1 Corinthiens 11, 11, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Et oui, Dieu a été en sage architecte, eh bien, il a permis que ça soit la femme qui donne la vie à l'homme. Donc, l'homme ne peut pas prendre cette autorité pour être une dictature en disant, ben voilà, toi, tu es soumise, tu es inférieure, etc., etc. Non. D'ailleurs, il n'y a plus ni homme ni femme, c'est bien pour nous montrer que. Vis-à-vis de toute chose, du salut, d'un point de vue moral, la femme, elle est l'égale de l'homme. Il n'y a pas une infériorité par rapport à la femme, de la femme par rapport à l'homme, pardon. Mais il y a quand même une autorité qui est manifeste, puisque un dernier verset, en Genèse chapitre 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et le verbe donner, là encore, c'est toujours le même mot, kara. Voilà. Et le fait de donner, ça marque l'autorité. Alors, une dernière chose que je vais vous faire remarquer, c'est que on voit que dans tout ce récit, Dieu donne le commandement, le seul commandement qu'il avait, Dieu le donne à l'homme, et il le donne même avant que la femme soit créée. Donc on va voir la suite pour voir ce qui s'est passé. Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et on continue Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, on va détailler tout ce passage pour comprendre ce qui s'est passé. D'abord, l'homme et la femme étaient tous deux à Rome. Voilà, ça c'est le mot hébreu qui traduit nu. Pourquoi je vous montre ça? Parce que le verset qui suit nous dit le serpent était Arum, l'Arum de tous les animaux des champs. Et en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a un jeu de mots. Les deux mots sont très proches, ils ont la même racine, exactement la même racine. Ce jeu de mots, il indique que Satan vient à nous dans une ressemblance à notre état spirituel. Il n'est pas venu avec un. Il est venu avec de tous les animaux, celui qui était le plus semblable à Rome, à Roum, à Adam et Ève. Voilà pourquoi Ève s'est laissée approcher par ce serpent. Le mot traduit rusé, donc c'est pour ça qu'on a traduit le plus rusé, mais il traduit rusé, mais il peut traduire aussi prudent. Subtil, sensible. Voyez, donc c'est pas nécessairement rusé dans le sens de enfin c'est dans le sens de c'est pas nécessairement trompé, mais c'est dans le sens d'être approchant de l'état dans lequel étaient Adam et Ève. Ensuite, voilà, je vous encadre. Il va poser cette question à Ève, et puis je vous encadre la réponse d'Ève pour vous. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, voilà ce que Dieu nous a dit, de peur que vous ne mouriez. Alors, relisez le verset de Genèse 2,16, donné à Adam. Eh bien, il n'a jamais dit qu'il fallait pas y toucher, Dieu, mais déjà, elle a rajouté ça. Mais ensuite, elle dit, de peur que vous ne mouriez. Mais non, non, non. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est sans équivoque. Il n'y a pas d'incertitude. Là, elle met une incertitude. Et évidemment, le serpent en profite. Vous ne mourrez point. Là, par contre, là, lui, il commence à affirmer. Et on va voir que dans le verset 5 et 6, là, c'est deux versets, on va voir le parallèle qu'il y a entre la suggestion que va lui faire le serpent et la réponse à cette suggestion d'Ève. Donc, vous ne mourrez point. Voilà, il affirme déjà. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Donc là, il lui suggère d'en manger. Ni plus ni moins. Et là, elle va répondre qu'elle trouve que l'arbre il était bon à manger. Avant d'en manger. Hein. Et là, il lui dit le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et la femme, elle vit que l'arbre était quoi? Il était bon à manger et agréable à la vue. Allons bon. Ensuite, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, en fait, il y a un parallèle. Elle a répondu à la suggestion du serpent. Pourquoi ? Parce que, en fait, elle ne s'était pas retournée vers son mari pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'il nous a dit exactement ?» Parce que le commandement, il avait été donné à Adam et pas à Ève. Et souvenez-vous que Jésus, son enseignement, il l'a donné à 12 disciples hommes, pas de femmes, là encore. La femme se laisse séduire. Et comment elle se laisse séduire ? La séduction, elle consiste dans l'acceptation d'une parole autre que celle de Dieu. Et voyez, là, en versets 5 et 6, on voit qu'elle a accepté tout ce que lui a suggéré le serpent. Et ce faisant, eh bien, elle a accepté une parole autre que celle de Dieu. L'homme accepte la proposition de la femme, et pourquoi il le fait ? Donc ensuite, elle prend du fruit, elle le mange, elle en donne aussi à son mari, qui est auprès d'elle, et il en mange. Ça veut dire que lui aussi, il a assisté à toute la scène, il était là, hein. Il n'était pas parti ailleurs, hein. Il était là, il a assisté à toute la scène. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, elle a mangé du fruit, et puis qu'est-ce qui se passe ? Adam a vu que la conséquence, la mort indiquée par Dieu, n'était pas immédiatement visible. Alors, il choisit de suivre sa femme dans la désobéissance à la parole reçue de Dieu. Vous voyez, alors, ça, je trouve que c'est important de bien penser à ça. C'est que une femme qui va prêcher, elle va pas nécessairement dire des choses fausses, hein, c'est parce que je suis pas en train de vous dire ça. Une femme qui connaît son Seigneur, il y a aucune raison qu'elle dise des choses fausses. Seulement, s'il y a des erreurs, eh bien, on ne va pas nécessairement les discerner. Et en fait, on ne voit pas tout de suite la conséquence. Là, Adam, il ne voit pas tout de suite la conséquence que Dieu lui a indiquée, la mort. Alors, il décide d'en manger, lui aussi. Et finalement, lui aussi accepte la parole du serpent. Voilà comment le serpent l'a atteint. Dieu ne veut pas que la femme enseigne, afin que ce qui arriva du temps d'Adam et Ève ne se reproduise pas. Le serpent n'a pas changé de méthode, il est subtil, il est rusé, il sait qu'il peut atteindre l'homme au travers de la femme. Et ça ne changera jamais. Donc, en fait, il s'agit ici de protéger l'homme et la femme. Ce que Dieu veut, c'est nous protéger. Dans cette histoire que la femme n'enseigne pas, Dieu veut vraiment protéger l'Église, l'homme et la femme tous les deux. Alors, seulement, il y a une femme qui enseigne dans la Nouvelle Alliance. Eh oui, il y a une femme. Et on va lire. On va lire un long passage. Je suis désolé, c'est un petit peu long, mais c'est pour bien que, à chaque fois, on contextualise pour pas qu'il y ait d'équivoque et que vous voyez aussi les conséquences. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, et bien vous voyez que dans ce texte, la seule femme donc du Nouveau Testament qui enseigne, eh bien c'est une... elle se dit prophétesse, le Seigneur ne dit même pas qu'elle est prophétesse, elle se dit prophétesse, et elle se nomme Jézabel, et ça c'est une référence à la Jézabel de l'Ancien Testament, qui a détourné le peuple d'Israël de l'adoration à l'Éternel, et qui lui a fait adorer les Baals. Autant vous dire que cette femme qui enseigne n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc je ne vais pas commenter plus, mais ça vous montre que ben voilà, la seule femme de l'Ancien Testament qui enseigne, c'est très très négatif. Voilà. Donc la seule femme de la Nouvelle Alliance qui enseigne est jugée par le Seigneur. Ceux qui reçoivent son enseignement seront jugés comme elle. Voilà, je ne détaille pas tous les avertissements, vous les avez lus comme moi. Voilà, et on va terminer, on va conclure. Pour être exact, certaines femmes sont invitées à enseigner. Et on va voir qui. Tite, chapitre 2, versets 1 à 5. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, à l'enseignement du Seigneur. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà ce que je voulais vous montrer. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous voyez, il y a des femmes qui peuvent enseigner, c'est les femmes d'un certain âge, et elles peuvent enseigner les plus jeunes. Ben pourquoi ? Ben à être, ce qui est dit là, au verset 4 et 5, à aimer leur mari, leurs enfants, être chaste, etc., etc., etc. Donc, il peut y avoir un enseignement de femmes dirigées, de femmes d'un certain âge, dirigées vers des plus jeunes. Donc, pour conclure, pour résumer, les femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Alors, on va me dire, mais ouais, mais si elles peuvent pas faire, c'est pas juste, ou je ne sais pas quoi. Non, il s'agit pas de ça. Les femmes, elles peuvent adorer Dieu, aimer les autres, leur prochain, etc. Elles peuvent louer Dieu, elles peuvent bénir, elles peuvent prier, elles peuvent intercéder, elles sont même très fortes dans l'intercession et la prière. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions de prière et on était un nombre très très restreint d'hommes. Par contre, il y avait toujours des femmes en grand nombre, bon, c'était au moins les trois quarts de l'assistance et ça persévérait là. Là, il y avait de la ferveur. Prophétiser, évangéliser, tout ça c'est possible, prier pour la guérison, fortifier, édifier, encourager, consoler, aider à des tâches diverses, bien s'occuper de leur famille, apprendre aux plus jeunes à bien s'occuper de leur famille, etc., etc. Voilà, une femme elle peut, pour ainsi dire, faire presque tout, sauf exercer, comme on l'a vu au début, l'un des cinq ministères, et enseigner. Voilà, c'est les seules choses qu'elles ne peuvent pas faire. Sinon, voilà, toute cette liste-là que vous avez sous les yeux, ben, ça, n'importe quel enfant de Dieu, je dis c'est les femmes, mais ça pourrait être les hommes aussi, la majorité des enfants de Dieu, ils font toutes ces choses, hommes ou femmes, voilà. Donc pour conclure, l'Église, en obéissant à ce précepte que la femme n'enseigne pas, eh bien elle ferme une porte d'accès au diable. Et donc ça, je vous inverse la phrase, c'est que si une femme enseigne dans l'Église, là, c'est ouvrir une porte d'accès au diable. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin. C'est ce que Paul nous dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin. Donc, je vous invite à refuser des femmes qui enseignent dans votre assemblée ou dans vos assemblées, quelles qu'elles soient. C'est pas pour leur faire de la peine, c'est pour protéger l'Église. Dieu ne veut pas, pour les raisons qu'on a vues, qu'une femme enseigne, eh bien, conformons-nous à ça. Moi qui vous dis ça, je vous connais pas, vous ne me connaissez pas, j'ai pas d'intérêt à vous convaincre que la femme ne doit pas enseigner, etc. Non, c'est simplement mettre en pratique l'enseignement de la parole de Dieu. Et il y a des bonnes raisons, Dieu a des bonnes raisons pour cela, et on les a vues, j'espère que vous les avez compris, et refusons simplement qu'une femme enseigne. Tout simplement, et si certaines veulent, eh bien, montrez-leur qu'il y a une désobéissance et il y a un risque pour l'assemblée. Bien sûr qu'une femme, elle peut avoir des grandes connaissances, et bien sûr que ça peut être utile ponctuellement que, ben, voilà, une femme peut apprendre quelque chose même à un frère, une sœur, ou peu importe, parce qu'elle a une connaissance, bien sûr. Mais en tout cas, elle ne doit pas prendre la parole comme ça dans une assemblée pour enseigner la doctrine de la parole de Dieu, etc. Mais bien sûr, elle peut témoigner, elle peut, je ne sais pas, avoir une parole d'encouragement, d'exhortation. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais elle ne doit pas enseigner, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.